Ecclésia Magazine.
Ecclésia Magazine.
Maxime Dalle.
Alors aujourd'hui dans Ecclésia Magazine, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Rentière. Frédéric Rentière que vous connaissez sur notre antenne, chers auditeurs, et qui notamment nous prépare un beau CD de chants de dévotion consacré à Saint-Antoine Abbé, Saint-Antoine l'Égyptien. Il faut donc partir au 4e siècle, après Jésus-Christ bien sûr, pour découvrir Saint-Antoine l'Égyptien. On va aussi, par la même occasion, s'interroger sur comment on peut intégrer un tel répertoire musical aussi dans le cadre de la liturgie, parce que la liturgie c'est aussi ce qui nous fait vivre, Frédéric, vivre notre foi. On en parle avec vous aujourd'hui. Bonjour à vous.
Bonjour Maxime.
Alors Frédéric, question naïve pour débuter cette émission. Est-ce que Saint-Antoine l'Égyptien peut être chanté dans le cadre liturgique aujourd'hui?
Alors, c'est un saint qui a été... la dévotion en Occident, c'est surtout pour la guérison du mal des ardents ou pour d'autres aussi. C'était un protecteur, un saint qui a joué un rôle important. Est-ce qu'aujourd'hui on pourrait l'intégrer? Oui, c'est ce que je fais depuis 3 ans dans le diocèse de Grenoble-Vienne. Donc je peux dire que c'est tout à fait possible. En fait, depuis 3 ans, en collaboration avec la paroisse de Saint-Antoine-l'Abbaye et le diocèse, on a constitué, en fait, un chœur liturgique s'est constitué. Et la semaine dernière, le jeudi 30 mai, donc pour l'Ascension, le chœur liturgique, pour la première fois, a rechanté les chants que les chanoines antonins, de l'ordre antonin, chantaient depuis, qu'on chantait jusqu'à la dissolution de l'ordre en 1776. Donc oui, c'est tout à fait possible et ça a été la preuve justement que c'est possible. Et ce qui est beau, c'est que maintenant, ils connaissent ces chants et qu'ils vont les chanter pour bien d'autres occasions liturgiques.
Alors c'est vrai que ça paraît lointain, ça paraît parfois impossible, effectivement, de réintégrer ce répertoire pour la simple et bonne raison que qui, finalement, est assez, même pas légitime, c'est pas la question, mais qui a les capacités, je dirais, à la fois vocales, techniques, pour pouvoir interpréter cela, le faire apprendre par une pédagogie qui est la vôtre, en l'occurrence, avec l'ensemble Voxinrama. Est-ce que c'est quelque chose de très résiduel comme ça ou qui prend un petit peu son...
Alors, c'est le problème de la transmission en fait. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que c'est inaccessible aujourd'hui? C'est parce qu'il n'y a plus d'enseignement. On a perdu, la chaîne de transmission qui est multiple. La liturgie, c'est plusieurs compétences. C'est bien sûr le latin. C'est le goût de la liturgie. C'est la pratique d'une liturgie qui a une signification, qui a un langage à la fois corporel et spirituel. C'est aussi des chants. Toutes ces compétences-là, elles existent. Elles sont souvent dans les mains de quelques spécialistes. Chaque spécialiste, souvent, même a une hyper spécialisation. Il y en a, c'est plus le chant, d'autres, c'est plus la liturgie, d'autres, c'est plus le latin, d'autres, c'est là. Moi, mon objectif, c'est de rassembler ces connaissances pour faire revivre ces chants. Et c'est tout à fait possible. Ce qui est important aussi, après, c'est que le but n'est pas simplement de faire revivre ces chants, ça, c'est la première étape, mais aussi de retransmettre des savoirs et des connaissances qui vont permettre à d'autres de les transmettre à leur tour. Et ça, c'est ce que je pense que l'Église se rend compte assez tard de la nécessité de ne pas simplement transmettre un savoir, mais de transmettre à transmettre, d'apprendre à transmettre. Et pour ça, c'est un transfert de compétences qui doit se faire de manière concrète, pratique, pragmatique. Il n'y a rien d'insurmontable. C'est juste qu'on a trop intellectualisé et trop créé une élite intellectuelle en disant, une forme d'élitisme intellectuel en disant tout ce qui est ancien, c'est pour quelques spécialistes, des grosses têtes.
Et c'est pas pour nous. Cet élitisme intellectuel vous reproche d'une certaine manière, pas directement, bien évidemment, mais une forme d'élitisme musical ou liturgique.
Oui, alors on peut tout entendre dans ces cas-là. Mais c'est-à-dire que les hyper spécialistes peuvent aussi être un peu quelque part, c'est un peu leur spécialité, et ils n'aiment pas trop que finalement on propose de le vulgariser. Et puis aussi, après, il y a tous ceux qui ont des appréhensions par rapport à ce qui est ancien et qui ont signent littéralement la branche sur laquelle ils sont assis en pensant que tout ce qui est ancien est inaccessible et que le progressisme consisterait justement à repartir de ce qu'on est, de la réalité de notre époque. Sauf que l'Église, elle a une histoire de 2000 ans et que considérer qu'en 50 ans, on va refaire toute la liturgie, c'est complètement une illusion.
Avec une idée qu'on appelle l'archéologie, me semble-t-il, l'archéologie, oui, qui consiste à revenir au temps primitif, ouais, de l'Église et en oubliant 1500 ans de tradition.
Oui, alors là, vous dénoncez, ouais, là, vous dites, vous allez plus loin que moi là, par rapport à ça. C'est-à-dire que vous considérez qu'il y a 1500 ans de tradition qui sont complètement oubliées, mmh, et que finalement, on a la prétention de revenir à la première Église, l'Église apostolique, etc. Ce qui en soi est une, je pense, c'est un rêve, enfin un besoin très ancien qu'on retrouve aussi dans plusieurs formes de protestantisme ou dans des schismes, enfin. Beaucoup de réformes n'ont pas schismé dans l'Église catholique et avaient pour but de revenir au christianisme, à un christianisme originel, très idéalisé souvent. Et je suis d'accord avec vous que la tradition, justement, c'est quelque chose qui il faut éviter de faire des raccourcis trop idéologisés, parce que on peut vite se prendre le mur. Parce que la réalité, c'est une réalité qui a été construite, c'est un arbre de vie qui, lui, s'échafaude depuis très, 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 très longtemps.
Et qui traverse une incarnation humaine aussi, ancrée, humaine, en l'occurrence.
Voilà.
C'est ça qui me paraît paradoxal.
Mais l'Église est quand même humaine. Bah, depuis que le Christ est passé sur Terre, elle a quand même, ce n'est qu'une chaîne de transmission humaine, inspirée, il y a l'Esprit Saint. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'à chaque époque, on avait des solutions, que le champ était vivant, que l'Esprit, à chaque fois, renaît dans le chant, et que chaque époque a son génie, finalement. Par exemple, le chant Antonin, j'ai ignoré encore, il y a 4-5 ans, le génie de cet ordre, le génie aussi de leur créativité.
Alors justement, comment êtes-vous allé pêcher, parce qu'on va parler maintenant de ce Saint-Antoine égyptien, ce moine?
Alors c'était un anachorète, c'était pas un moine, justement, c'était le contraire. Enfin, c'était pas un moine dans le sens où il fuyait le monde.
Un ermite.
Un ermite, il ne vivait pas en communauté.
Donc cette anachorète, ce père du désert.
Oui, voilà, géant du désert, même, il est surnommé. Oui.
Ce géant du désert, où est-ce que vous êtes allé le pêcher, quand même, Frédéric? Alors, là, vous arrivez toujours à dégoter des noms, comment avez-vous dégoté ce
Alors, ce n'est pas moi qui ai retrouvé les reliques, je vous rassure. Ça, c'est au Moyen-Âge. C'est quelque chose qui est lié à l'histoire de Saint-Antoine l'Abbaye, à la fin du XIe siècle. Moi, ce que j'ai repêché, c'est en animant des stages à Saint-Antoine l'Abbaye, les responsables du palais abbatial m'ont parlé en fait de livres de cœur qui étaient enfouis dans le trésor de l'église abbatiale et qui étaient là à attendre qu'il se passe quelque chose.
Donc, qui n'avait pas été usité depuis des siècles.
Depuis la dissolution de l'ordre en 1776.
18e siècle.
Voilà. Et donc ces livres de cœur, moi ça m'a tout de suite fasciné, mais il a fallu bien sûr un certain temps pour pouvoir y accéder, parce qu'il y a tout un tas d'autorisations à demander, etc. Et quand j'ai plongé mon nez là-dedans, je me suis rendu compte qu'effectivement, en faisant des recherches en parallèle, que saint Antoine l'Égyptien était le grand oublié dans le christianisme occidental, oui, pas oriental. Oriental, il est particulièrement vénéré, mais dans le christianisme occidental, j'ai trouvé que finalement, il avait été énormément vénéré au 14e, surtout 15e siècle, et 16e aussi, et que finalement, on n'en parlait plus du tout. Et qui était un peu confondu avec Saint-Antoine de Padoue, etc. Oui. Et c'était l'occasion certainement de redécouvrir des chants, des liturgies et des créations. Et c'était le cas, effectivement, j'ai redécouvert des pleins chants superbes, des polyphonies magnifiques. Et on a eu l'occasion, là, justement, le 30 mai, de chanter un extrait du CD qu'on va enregistrer donc au mois d'octobre. Et j'ai eu la joie, vraiment, de partager la joie d'un public qui était extrêmement enthousiaste. Et ça, c'est vraiment, ça fait beaucoup de bien de voir que ce patrimoine, il y a une véritable conscience de le faire revivre. Et ça, c'était vraiment un grand moment à Saint-Antoine-l'Abbaye.
Donc finalement, les chants que vous avez interprétés, et je le dis aux auditeurs tout de suite, vous avez eu la gentillesse de nous apporter plusieurs extraits justement de ce prochain CD à paraître consacré à Saint-Antoine l'Égyptien. Donc ce sont des chants qui ont été entonnés au 4e siècle.
Alors non, c'est justement ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un hiatus énorme. Au Moyen-Âge, la vénération de Saint-Antoine l'Égyptien, elle démarre vers 1083. Enfin, en tout cas, c'est quand elles sont transférées à Saint-Antoine, aujourd'hui Saint-Antoine l'Abbaye, qui va devenir ensuite le chef-lieu de l'ordre antonin. Et c'est à partir finalement du 14e siècle qu'il va y avoir un regain, alors en lien avec le mal des ardents, donc c'est ce qu'on appelle l'ergotisme. Alors ça remonte à bien avant, puisque les cas d'ergotisme, justement, on en a beaucoup plus tôt. Et il y a les hospitaliers qui se sont installés à Saint-Antoine-l'Abbaye, 11e siècle. Et puis ensuite, en tout cas dont on a la trace, après l'ordre antonin, fin 13e siècle, va prendre sa place. place et sur ordre du pape. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un développement en fait d'un centre hospitalier qui lui va accueillir beaucoup de malades atteints du mal des ardents, et il va y avoir une collaboration entre les laïcs et les religieux. Et moi, ce qui m'a intéressé particulièrement, c'est bien sûr les soins qui étaient apportés aux malades, mais surtout les chants qui, eux, étaient pratiqués, les liturgies qui étaient pratiquées pour demander la guérison, demander l'intercession de saint Antoine. Voilà. Donc c'est ça, et donc le sujet de ce CD et de toute cette entreprise finalement pour faire revivre ce patrimoine, c'est de faire revivre un patrimoine où santé, âme, corps, esprit, chant, liturgie, tout ça forme un tout. C'est ça en fait qui pour nous je trouve est intéressant, parce qu'on a aussi beaucoup parlé d'Hildegarde de Bingen, qui est beaucoup, on en parle beaucoup justement pour cet aspect qui réunit, un peu holistique on pourrait dire. Et ben la dimension holistique on l'a pas que chez Hildegarde de Bingen, on l'a notamment chez justement chez les Antonins. On a cette capacité de voir que quand on guérit le corps, il faut d'abord guérir l'âme pour que le corps puisse guérir. Et ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, nous parle, parce qu'il y a un besoin de retrouver une véritable unité entre l'âme, le corps et l'esprit.
Allez, on va écouter quelques extraits, justement, de ce beau CD apparaître, et puis on va le commenter avec vous, Frédéric. On écoute.
Donc là, c'est un extrait d'un graduel, un chant du psaume qui était chanté pour la fête de saint Antoine l'Égyptien. Le texte est « Ponam in marima nomejus et in fluminibus dextera mejus ». Et j'établirai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. C'est en fait l'évocation de saint Antoine en majesté qui vit, qui est emporté, en fait, dont l'âme est emportée de son vivant et qui va déjà traverser les cieux, qui va être conduit par des créatures célestes. Et cette vision-là a beaucoup fasciné les Antonins. Ils l'évoquent beaucoup dans leur liturgie parce que c'est déjà un avant-goût de sa sainteté. Alors là, il y a justement une polyphonie que vous allez pouvoir entendre, qui a été composée par Guillaume Dufay, ou un élève de Guillaume Dufay, sur ce plein chant antonin.
Allez, on écoute un second extrait.
Voilà, donc cette création magnifique du XVe siècle, donc pour trois voix d'hommes, est en fait reprend des motifs du plein chant, et on voit la manière dont l'image des fleuves, justement de l'étendue de la mer, qui elle finalement étant que Dieu va peut même façonner, créer, délimiter justement, et magnifiquement rendu par ce flot de mélisme. Et c'est vrai qu'on oublie souvent que une des richesses du plein chant et des traditions liturgiques anciennes, c'est de nous mettre en lien avec les éléments, et notamment l'eau est extrêmement présente dans le chant. On a vu en concert, beaucoup de gens étaient fascinés par ces entre-là. Beaucoup de gens nous ont dit, mais c'est incroyable ces entre-là de voix qui n'en finissent jamais, c'est l'éternité. Je dis oui, c'est quelque part une expérience de l'éternité sur terre, justement, le plein chant liturgique.
C'est ça qui est magnifique, justement, pour en revenir à l'utilité, plus que l'utilité même, mais spirituelle, l'utilité spirituelle et sacrée d'un tel chant, c'est que effectivement ça nous emporte ailleurs, vers le ciel véritablement, et avec ces entre-là que vous évoquiez, effectivement on sent, on voit l'eau, on voit cette espèce de... enfin c'est très curieux, c'est très particulier, c'est des choses qu'on...
Mais c'est apocalyptique en fait.
Ouais, mais c'est des choses qu'on n'a plus trop l'habitude d'entendre, ça c'est évident, parce que les chants sont peut-être aussi plus simples, entraînants, avec une rythmique effectivement plus contemporaine, plus simple aussi.
Mais parce que finalement le royaume de Dieu, dont je ne sais plus si on en parle vraiment en tant que ça aujourd'hui, le royaume de Dieu, il prend place dans l'instant. et le chant liturgique et l'art liturgique, bien sûr, et le chant en particulier, qui est un peu quand même un enfant assez, qui a été assez maltraité ces derniers temps, il est la preuve vivante d'une expérience du royaume de Dieu, en fait, de manière sensible. On est dans l'expérience sensible du royaume de Dieu. Souvent, on en parle d'une manière un petit peu, finalement, abstraite, coupée du réel, et ça, c'est dangereux. Je trouve que, justement, renouer avec le chant, avec ces traditions-là, c'est renouer avec une pratique du sensible, où le mystique est palpable par les sens et notamment l'écoute. L'écoute, pas la vue, parce qu'on est dans des zones de civilisation de la vue et on veut tout comprendre par le visuel. Non, de l'écoute. Et l'écoute, elle est plus lente. Elle met du temps à nous pétrir et on est beaucoup plus dans la notion de verbe, justement, je pense, dans cette dimension-là.
Allez, on écoute un troisième extrait, justement, de l'ensemble Vox in Rama qui interprète les chants de dévotion à Saint-Antoine Abbé.
Donc là, c'est un chant sur les tentations de Saint-Antoine. Tout le monde a entendu parler de manière parfois un petit peu grossière des tentations. Antoine, donc, qui lui est au fond d'un tombeau, qui demande d'ailleurs d'être au fond des tombeaux pour affronter les esprits errants, les âmes errantes. Hein. L'Antiquité est fascinée, et le christianisme antique est fasciné aussi par ces âmes errantes. Et alors, donc, dans ce climat de décadence païenne, il est battu. Hein. Il est battu par ses démons, laissé comme pour mort, et il prononce cette parole là que l'on chante, toujours retirée du plein chant antonin, nullus, mais alors c'est un latin de l'époque, nullus me separabit a caritate Christi, nul ne me sépara de l'agapé du Christ. Et donc quand il profère cette parole, c'est un serment, il s'engage devant Dieu, et c'est finalement quelques minutes après, enfin un peu de temps après, que le Christ va intervenir, il va le sauver, il va lui expliquer justement qu'il a attendu, qu'il l'a laissé comme pour mort, mais pour le tester, pour voir finalement sa foi. Et quand il sent que sa foi est véritablement éprouvée au feu, finalement, qu'il a vaincu le feu des démons, à ce moment-là, il lui transmet un charisme de guérison qui va fasciner au Moyen-Âge, puisque c'est le charisme de guérir le feu Saint-Antoine, le fameux feu des ardents.
Oui. Alors c'est vrai que ce qui est étonnant aussi, c'est que c'est aussi toutes les thématiques spirituelles, théologiques qu'on peut entendre ici, avec effectivement la tentation, le démon, la rédemption, cette espèce de fidélité aussi absolue que l'on veut.
Oui, l'agapé.
L'agapé, bien sûr, au Christ. Et puis finalement, c'est vrai que quand on entend un certain nombre de chants aujourd'hui, beaucoup même, il y a tout de suite, d'une certaine manière, la rédemption et la joie.
Oui, c'est vrai, mais c'est comme sans accouchement, on va dire. Ou alors c'est l'accouchement sans douleur, peut-être, on pourrait dire ça. C'est bien notre époque, ça.
Supéridural.
Or que, alors bon, je n'ai pas la prétention d'être une femme, et en accouchement, j'y connais pas grand-chose, mais je m'intéresse beaucoup quand même à la psychanalyse et aussi au regard que certains médecins ont sur ça. Et ils parlent beaucoup, ils disent que c'est important quand même la douleur, parce que, d'une certaine manière, elle opère aussi la séparation entre l'enfant et la mère. D'une certaine... Et alors, Voilà, mais je n'ai aucune prétention particulière, mais je...
Je vais vous faire taper dessus, Frédéric.
Oui, je sais.
La bastonnade.
C'est la bastonnade, c'est moi qui vais finir en Saint-Antoine. Alors, crois-moi, j'espère que le Christ va venir me sauver. En tout cas, il faut que ma foi, du coup, il faut d'abord que j'éprouve ma foi avant. Hein. Et en fait, ce qui est intéressant là, c'est qu'il y a une idée de parcours. C'est un parcours initiatique, le parcours d'Antoine, et comme il y en a bien d'autres chez les saints. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ces étapes, elles sont liées au feu. Vous parliez justement de l'esprit. Il est question d'un feu dans un premier temps qui est destructeur. C'est un peu le feu de l'enfer aussi, hein, qu'on va retrouver dans le purgatoire. Enfin, de l'enfer, pas du purgatoire, le feu de l'enfer. Et ce feu qui finalement peut détruire, est destructeur, et qui va être identifié à la maladie, justement au mal des ardents. Et en même temps, ce feu, si on le vainc, un autre feu vient et qui lui est un feu vivifiant, enfin un feu vitaliste finalement. Mmh. C'est d'ailleurs un peu dans les hymnes de Saint-Antoine, on a souvent l'opposition entre le feu qui détruit et le feu qui donne la vie, donc le feu de l'Esprit-Saint justement.
Alors on continue cette découverte magnifique des chants de Saint-Antoine.
Alors là, justement, c'est toujours la version polyphonique chant antonin, justement, le chant de communion sur les tentations. Nullius me separabit a caritate Christi. On voit bien le travail fait sur le mot caritas, donc au sens justement agapé, amour infini, amour, mourir jusqu'à la mort, pouvoir donner sa vie, aimer jusqu'à la mort, le modèle d'amour du Christ. Et on voit comment c'est traité, c'est-à-dire qu'on a toutes les tentations au début, toutes les tensions, toutes les souffrances corporelles que vit Antoine, et la fin, c'est un immense apaisement, et tout l'office se termine sur un sentiment de plénitude. Et alors, c'est vraiment au cœur de la dérédiction qu'il y a la lumière rédemptrice. C'est ça qui est très très beau dans le thème de saint Antoine, l'Égyptien.
Alors, c'est vrai que la manière dont on chante et ce que l'on chante aussi, le fond de ce que l'on chante, d'une certaine manière, peut décrire aussi la théologie à laquelle on adhère.
Totalement, oui.
Vous êtes bien d'accord ?
Alors, je suis complètement d'accord avec
ça. C'est vrai que quand on entend justement, par notre conversation et par l'écoute de ces extraits de Saint-Antoine Abbé, on sent bien qu'on est dans une spiritualité aussi et une théologie de fait plutôt médiévale, qui là aussi peut-être peut paraître un petit peu décalée. Même si la théologie
c'est
est
quoi, c'est l'aspect rédemption justement qui vous pensez qui peut
Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a une forme de radicalité aujourd'hui. Effectivement, oui. On est plus dans une douceur, dans un entre-deux.
Oui. Probablement. C'est vrai que là, il y a quelque chose de radical au sens étymologique aussi. Oui. C'est-à-dire que on est dans les racines d'une théologie où il est bien question de dépassement, de limites.
Et d'un combat aussi.
Et d'un combat intérieur qui peut faire vraiment très très peur, mais qui est initiatique, c'est-à-dire qui nous ramène vraiment à l'origine, aux croyances, à la dimension diabolique, c'est-à-dire ce qui finalement nous manipule, ce qui nous détourne du véritable chemin, etc. Et puis après, à un moment donné, la révélation, le dévoilement, ça fait penser aussi à la conversion de saint Paul. C'est vrai qu'il y a la même idée, il perd la vue d'ailleurs, après il recouvre la vue, mais quand il recouvre la vue, c'est plus du tout la même vue, il s'agit d'une vue de l'esprit. Donc on a un peu la même idée aussi avec Antoine, d'une résurrection du vivant. Du vivant. Mais je pense que cette théologie-là, on la retrouve aussi quand même dans les mouvements charismatiques, justement avec les chants en langue, les moments aussi où l'esprit vient parler. On retrouve ces choses-là, mais d'une manière peut-être un petit peu plus encore, plus immédiate, plus rapide. Là, il y a la notion de préparation, il y a une propédeutique. Et c'est vrai que le Moyen-Âge insiste beaucoup plus là-dessus. Oui.
Alors, nouvel extrait justement de ces chants à Saint-Antoine.
Donc là, c'est un chant aussi très intéressant, justement, qui nous plonge dans le Moyen-Âge, la pratique, justement, des prières pour les malades, puisque c'est le chant Antoni Pastor Inclite. Le texte dit « Antoine, illustre pasteur, qui rétablit les souffrants, donc on est bien dans le mal des ardents, guérit et détruit les maladies, éteint la chaleur du feu. » Donc il s'agit bien de ce feu qui brûle, qui a fait tant souffrir ces malades. « Ô Saint-Père, prie le Seigneur pour nous les miséreux. » Donc ce texte, ce chant, correspond aussi à une prière, est inspirée d'une prière qui était dite sur le malade, justement.
Alors on écoute un dernier extrait, mon cher Frédéric, polyphonique celui-ci aussi.
Voilà, du même texte.
On l'écoute.
Voilà, donc là on est dans une fin éclatante, c'est le motet sur le chant Antoni Pastor Inclite, le chant antonin, un motet d'Adrien Villaer, et qui est intéressant parce qu'on finit justement sur une espèce de lumière, on pourrait très bien avoir l'équivalent d'ailleurs dans des peintures, des fresques de l'époque, où c'est la lumière du Christ en fait qui transparaît derrière la victoire d'Antoine.
Alors quand est-ce qu'on l'écoute à la fois ce CD, on va parler du CD qui va bientôt paraître, et comment aussi on peut l'aider à son son financement, mais aussi quand est-ce qu'on l'écoute tout simplement dans une paroisse parisienne ?
Alors, dans une paroisse parisienne, ça va bientôt venir, puisque le CD va être enregistré en octobre prochain à Saint-Antoine-de-l'Abbaye même. En ce moment, il y a un financement participatif Hello Asso qui va se terminer le 26 juin. Et justement, là, on est vraiment très, très proche du but. Donc, si vous voulez nous aider et accueillir le CD d'une manière, on va dire, intelligente, pour vraiment contribuer, oui, participative, eh bien, vous tapez sur Google AFA, A-F-A. A, c'est très simple, et ensuite Hello Asso, H-E-2-L-O, excusez-moi, H-E-2-L-O-A-2-S-O, AFA Hello Asso, et tout de suite vous tombez sur une page, redécouvrez les chants antonins, les chants disparus des Antonins, et là vous pouvez y contribuer, nous aider, et le CD lui donc sortira pour début décembre 2019.
Et puis pour toutes vos actualités, Frédéric, Voxinrama ?
Oui, donc Voxinrama, mon ensemble médiéval. Et puis pour mes stages, Frédéric Rentière, R-A-N-T-I-E-R-E-S.
Il est sur tous les combats, d'une certaine manière, Frédéric Rentière.
Oui, ben oui.
La beauté, toujours, mon cher.
Bien sûr.
Donc voilà, L-O-S-O, A-F-A-A, pour acquérir ce beau CD à venir et pour l'aider justement à se concrétiser. Merci beaucoup, Frédéric.
Merci beaucoup, Maxime.